Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette 10e émission du confort dans l'habitat avec Promotelec, dernier numéro de cette saison. Nous nous retrouverons en septembre et nous allons parler aujourd'hui du confort d'été. Pour cela, deux invités, Chantal Degand, directrice adjointe du département solutions innovantes et usages bas carbone au sein d'EDF. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Et Maurice Manceau, directeur délégué de Saint-Gobain et également président du club d'amélioration de l'habitat. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Et celui qu'on ne présente plus, Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Bonjour.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Bien aujourd'hui, nous allons parler avec la saison qui arrive du confort d'été. C'est un sujet dont on parle assez peu, la réglementation finalement ne l'a pas prise en compte. Et ce qu'on voudrait voir, c'est comment faire évoluer cette réglementation et faire intervenir ce confort d'été à la fois dans le neuf et à la fois finalement dans la rénovation, qui sont deux sujets importants. Et pourquoi pas lier le confort d'été et le carbone, mais ça c'est une ambition qui est peut-être un peu démesurée.
On va tenter d'y répondre.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors Chantal, Maurice, lorsque Dominique évoque effectivement ce sujet d'actualité au regard de vos compétences et de vos lieux de travail respectifs, on oppose matériaux, bâtis et systèmes ou on les assemble, Chantal ?
Je pense que la solution, elle est un petit peu plus complexe que ça. Il faut regarder l'intégralité des choses, à la fois avoir un bâtiment qui soit bien adapté, aussi bien au confort d'hiver d'ailleurs qu'au confort d'été, bien isolé, bien orienté, qui bénéficie de façades bellement exposées pour avoir de la lumière naturelle, mais également des équipements performants. Et c'est dans l'optimum économique et technique entre un bâti bien adapté et des équipements performants et une énergie qui soit bas carbone, qu'on arrive aux meilleures solutions possibles, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs.
D'ailleurs, effectivement, on sait que la réglementation, notamment la réglementation de 2012, a donné une part importante aux surfaces vitrées pour bénéficier de l'apport des apports solaires, notamment en hiver. On a beaucoup réfléchi chauffage. Et Maurice, est-ce qu'on n'a pas des retours un petit peu sur cet inconfort d'été ressenti sur des bâtiments récents de type BBC ou RT 2012?
Je crois pas que ce soit un vrai. C'est pas une caricature l'effet vitré, puisque en fait la réglementation 2012 incitait un minimum d'un sixième de partie vitrée sur les parois opaques. Et je crois pas que ça soit le sujet. Enfin, c'est plutôt ce que disait Chantal tout à l'heure. On a plutôt envie de dire le bébio est un sujet qui était réaliste, qui dépend finalement du positionnement de la maison, qui dépend de l'orientation, qui dépend en fait de quelque chose qui va avoir des incidences fortes. Alors après, quand on ait des parois vitrées, il en faut, parce que c'est aussi vital pour l'être humain. Après, on ne les met pas n'importe comment et n'importe où, puis après, on traite les parois vitrées. Donc, je pense que l'enveloppe est essentielle à travailler pour le confort d'été, et puis je pense que c'est un préalable, c'est-à-dire que si on travaille bien à l'enveloppe, après on ajuste éventuellement avec des équipements, mais c'est pas l'inverse, quoi. On fait pas un équipement avec une enveloppe derrière. C'est...
Il y a véritablement une conception globale.
C'est une conception globale, et puis c'est surtout quelque chose qui ressemble à quelquefois un retour en arrière de siècles, de plusieurs siècles, voire d'un paquet de temps, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on a vécu là, la semaine dernière, il faisait 32, 35 degrés, et c'est vrai que les premières zones d'inconfort, on les a vues la semaine dernière, en fait, on a pas trop de réponses dès qu'on a travaillé sur certains types de bâtiments. Et c'est vrai que les RT 2012... seule comme ça, a été quelquefois un peu mal adaptée. Je ne dis pas qu'elle n'était pas bien. La réglementation 2012 ne pose pas de problème, sauf que...
C'est ce que l'on en fait, ce qu'on en fait certains, peut-être.
C'est ce qu'en ont fait certains qui peut poser problème.
Vous évoquiez d'ailleurs, parce que c'est peut-être l'image d'Épinal, ces surfaces vitrées, mais on évoquait tout à l'heure, lorsqu'on préparait cette émission, un démonstrateur que Saint-Gobain a réalisé avec des surfaces vitrées extrêmement importantes, où tout le monde craignait un effet de serre à l'intérieur de cette maison énorme. Les produits verriers savent faire aussi des merveilles aujourd'hui.
Ça, c'est un peu les nouveautés de l'innovation. Tout à l'heure, on disait, oui, on prenait cet exemple qui était un truc, quelque chose d'assez incroyable. On a une verrière que pour la plupart, vous avez visité. C'est une verrière qui laisse penser que l'inconfort sera de toute évidence là. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas tout à fait comme ça, puisque on travaille maintenant les verres avec les verres à couche permettent aujourd'hui d'éviter ce genre de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir, c'est d'ailleurs l'effet incroyable de la véranda. La véranda, avant, c'était, je fais une caricature, hein. En plus, j'ai plein d'amis qui font des vérandas en Vendée. On a les deux grands vérandalistes, donc s'ils écoutent ça, ils vont être malades. Mais avant, on vendait une véranda qui servait mars, avril, mai, dès qu'il faisait chaud, hein, et puis l'hiver, on n'y allait pas. C'est-à-dire qu'on n'y allait pas l'été, on n'y allait pas l'hiver. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, on est capable, grâce aux verres à couche, de faire des vérandas qui supportent largement le fait d'une occupation l'été, sans même qu'on puisse se poser la question. Et c'est vrai que le démonstrateur qu'on avait fait il y a une dizaine d'années déjà, c'est assez bluffant, mais il faut le voir pour le croire. Parce que, bien évidemment, quand on dit ça, on se pose toujours des questions. Il faut savoir aujourd'hui que le verre... Alors, je parle même du verre passif, parce qu'aujourd'hui, on a le verre actif qui est encore plus structuré, qui permet d'évacuer un ensemble de sujets complémentaires. Alors, le verre passif, c'est celui qui n'a pas d'électricité. Mm-hmm. Et le verre actif, je veux dire, c'est celui qui a de l'électricité. Le verre passif, c'est celui qui travaille simplement avec le verre à couche. Bon, le verre, par exemple, le produit chez Saint-Gobain qui s'appelle Sedge, c'est comme si vous aviez une lunette de soleil. Vous regardez le soleil et à un moment donné, quand vous avez des lunettes photochrome, enfin, mm-hmm. les systèmes un peu classiques, la lunette
s'assombrit.
Ben là, vous avez la même chose avec les verres. Donc, on est capable à la fois d'avoir un verre passif qui réagit super bien pour éviter ces effets d'inconfort, et puis des verres actifs qui, là, composent. Alors, c'est vrai que c'est tout nouveau, ça. C'est quelque chose qui donne une dimension un peu originale, mais qui permet de faire des prouesses en termes de... Tout à l'heure, on parlait de bio, ben, on peut faire un peu plus... qu'on veut que quand on a des verres classiques plein sud, où là, il faut tout fermer dès qu'il y a un peu trop de soleil.
Et lorsqu'on parle de principes actifs, Chantal, au niveau des solutions innovantes que EDF peut voir passer ou sur lesquelles EDF peut travailler, on a des choses qui sont pertinentes pour améliorer ce confort d'été ?
Alors, déjà, j'avais envie de parler de ce qu'allait être le réchauffement climatique.
Ça peut être important.
Parce que c'est quoi le confort d'été dans ce contexte de réchauffement climatique, où aujourd'hui, les différents scénarios que l'on peut obtenir du GIEC montrent qu'il y a une hausse des températures moyennes qui peut aller jusqu'à plus de 1 degré, voire 2 degrés. Il y a une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été. Et donc, la difficulté dans un bâtiment bien isolé, c'est finalement ces calories qui sont capturées dans le bâtiment et qui n'arrivent pas à en ressortir. Et donc, c'est la question de la ventilation. Je pense que faire circuler l'air, c'est important. Le verre qui, avec un facteur solaire, permet d'éviter que la chaleur ne rentre, c'est important. Il y a l'ouverture-fermeture des volets. Donc, il y a plein de gestes comme ça qui sont nécessaires, que j'appellerais, moi, des solutions passives à utiliser au niveau d'un bâtiment et qui peuvent rafraîchir, mais continuellement et dans la durée, le bâtiment. Et après, dans des situations très exceptionnelles, on peut utiliser des solutions de climatisation, une pompe à chaleur climatiseur conçue dans le bâtiment avec un très faible dimensionnement peut aider les quelques semaines dans l'année à procurer un rafraîchissement utile, notamment, je pense, pendant la nuit pour des personnes fragiles, mais avec des consommations modérées. Mais c'est bien toujours le système global, bâti, orientation, vitrage, ventilation et système qui vaut le tout, qui est un tout. Et surtout, bannir les climatiseurs à roulettes, qui ne sont certainement pas des appareils dont on conçoit l'intégration globalement par rapport à un bâtiment et par rapport à des caractéristiques propres.
Et là aussi, c'est véritablement cette réflexion dans la globalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'introduire une climatisation dans une véranda des années 80 ou des années 70 qu'évoquait Maurice tout à l'heure.
Surtout pas.
Pour pouvoir continuer à s'en servir l'été, c'est la globalité du bâtiment. On peut aussi penser sur des systèmes passifs, sur de la ventilation passive, à des systèmes d'automatisation aussi ?
Alors oui, il peut y avoir des programmations automatiques d'un système ou de ventilation ou de fermeture automatique des volets. Oui, ça existe. Alors aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus facile. Hein. On peut avoir un système centralisé qui permet de tout connecter à partir de son iPhone ou à partir d'une box qui serait posée sur la table quelque part dans la maison, donc dans le logement. Oui, bien sûr. Mais Nativement, ce qu'il faut aussi avoir, et on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'un logement, c'est fait pour loger des gens qui ont des habitudes de vie. Il faut aussi que ça s'adapte aux habitudes de vie, au confort souhaité par ses occupants. Donc à la fois, il faut leur apporter des éléments d'information sur comment être mieux en été chez vous, et ensuite leur donner les moyens de piloter, sans que ce soit trop compliqué, bien entendu. Les différents équipements ou solutions chez eux.
Et pour améliorer ce confort d'été par rapport au réchauffement qui arrive, et il y a le réchauffement climatique global, et puis il y a ce réchauffement que l'on ressent, ces pics de chaleur que vous évoquiez, Chantal, c'est plus compliqué en maison individuelle qu'en collectif, ou inversement ? Les solutions, j'imagine, ne sont pas les mêmes.
Chantal, non ?
Les solutions sont différentes. Je pense que si l'on réfléchit, par exemple... Alors, pour des solutions de... Je vais juste travailler sur la pompe à chaleur. Effectivement, l'unité externe est plus difficile à intégrer dans un logement collectif parce qu'il y a des questions d'intégration architecturale ou d'impossibilité de poser l'unité externe, sauf peut-être sur le toit dans certains cas pour des immeubles. Donc ça demande une réflexion ou à la construction ou à la rénovation plus, à mon avis, plus complexe, mais qui n'est pas sans solution. Je pense que là, il faut aussi innover dans les solutions qu'on peut apporter. Pour les maisons individuelles, c'est globalement plus simple, mais en réfléchissant à l'isolation et aux caractéristiques propres de la maison, qu'elle soit encore une fois neuve ou à construire, ou à rénover.
On parle souvent également de la notion de logement traversant. C'est une bonne solution, notamment pour le collectif, de penser à cela. Alors là, plus facilement peut-être en conception, mais ce n'est pas non plus sur des petits logements, ce n'est pas toujours facile de voir forcément un logement traversant.
Non, mais je crois que vous donnez la réponse, enfin la question et la réponse. En fait, aujourd'hui, le logement traversant a plein d'avantages, sauf que quand on a un studio qui fait 22 mètres carrés, le sujet ne se pose pas. Et donc, quand on regarde aujourd'hui le maillage et le parc des logements collectifs, il y a peu d'endroits où on a la chance. Celui qui a un logement traversant, souvent, c'est du 100, 120, 150 mètres carrés, ce qui est quand même pas aujourd'hui la majorité.
Oui,
donc, on a, à mon avis, c'est un petit marché par rapport au reste. Par contre, si je reviens sur le sujet qui était abordé tout de suite, sur l'inconfort d'été avec les solutions. Tout à l'heure, on parlait de solutions qui sont des solutions qu'on avait complètement, pas bannies, mais qu'on avait oubliées depuis des centaines d'années. C'était des solutions naturelles. La géothermie, le pluie climatique, c'est pareil. Enfin, on n'en parlait plus. Maintenant, on commence à en reparler parce que c'est une notion hyper simple qui, en fait... Peut permettre largement de climatiser de façon naturelle un logement, qui soit d'ailleurs collectif ou individuel.
On peut rapidement, quelques mots, expliquer le puits climatique, Maurice ?
En fait, c'est simple. Vous prenez une entrée d'air avec un tube de bonne qualité qui a un peu d'inertie. Nous l'on fait, donc ils sont mieux que les autres, mais c'est plus de façon plus sérieuse. Nous, c'est de la fonte ductile, et donc c'est un effet effectivement renforcé. Mais quand vous mettez un tube, vous l'introduisez à 2 mètres, 2 mètres 50 en terre.
D'accord.
Donc il prend, en fait, sur un circuit, la température à moins 2 mètres, moins 2 mètres 50. Donc ça a deux effets positifs. Il y a l'effet, l'hiver... il prend de l'air à 0 degré et il la transforme à 15 degrés.
De par la circulation.
De par la circulation, parce que la température à moins 2 mètres est souvent à 15, 18, enfin 15 degrés. Et puis vous la réintroduisez dans l'appartement avec donc de l'air frais qui a été réchauffé, et donc ce qui est déjà une bonne chose. Et puis de l'autre côté, quand c'est l'été, eh bien là, vous avez un air à l'extérieur qui est de 25, 28, 30 degrés, et vous le passez, vous le retrouvez, c'est 15 ou 18 degrés, et vous le réintroduisez dans la maison. Du coup, vous permettez à l'appartement d'avoir un air frais arrivé qui ne coûte rien.
Et c'est adaptable, il y a des solutions là. Donc pour la maison individuelle, on imagine que c'est assez simple. En solution collective ?
Alors à mon avis, il y a deux cheminements intéressants sur le développement de ce genre de produit. En maison individuelle, en bande, on peut cumuler un puits sur plusieurs maisons. Et en version collective, on peut faire de la géothermie sans problème. Enfin, c'est un sujet qui existe de façon aussi naturelle. Alors, avec d'autres principes, enfin, les mêmes principes, mais avec d'autres
modes d'application.
Mais on arrive à faire des choses assez sympas.
Chantal, vous aviez une réflexion, je crois, par rapport à... Quand on parlait de logements traversants tout à l'heure.
Oui, sur les logements traversants, je pense que c'est effectivement une minorité de logements aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir simplement des questions de sécurité. J'ai pas envie de laisser ma fenêtre ouverte... ou mon appartement, ou mon logement ouvert, ma maison, et ou bien des questions aussi de bruit, parce qu'on vit beaucoup dans les villes, et c'est assez insupportable quelquefois. Et la fenêtre est non seulement un protecteur de l'extérieur, mais du bruit, et c'est essentiel. Donc je voulais rajouter cet élément-là, quelquefois c'est juste pas possible.
Pensez également à cela. On sait tous qu'on est... On est, en termes réglementaires, à l'aube d'une nouvelle réglementation, la réglementation 2020 qui va arriver. Selon vous, ce confort d'été va être appréhendé différemment de ce qu'il a pu être dans la RT 2012 ? Il y a des points de vigilance qui vont arriver sur ce domaine ?
La 2012, en fait, on avait une température intérieure conventionnelle, et donc ça, c'était un peu... Enfin, c'était bizarre, parce que c'était un peu éloigné de la réalité. Demain, sur le RBR 2020, en fait, on intègre le dièse, enfin, la durée d'inconfort en été statistique, c'est-à-dire qu'on estime que on a quelques heures... Parce que, en fait, le vrai problème d'inconfort en France, suivant les régions... Il est quelquefois de quelques heures dans le mois, dans les deux mois d'été. Il est quelquefois de deux jours, de trois jours. Dans le sud, un peu plus, mais enfin, c'est quand même assez variable. Donc ça veut dire qu'on travaille sur des plannings qui sont hyper serrés quelquefois. Et c'est vrai qu'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur un sujet qui dure deux heures, c'est un peu stupide. Donc là, la prochaine réglementation, le projet de RBR 2020, normalement, va intégrer cette durée d'inconfort. Alors, on travaille d'ailleurs avec EDF en ce moment sur le sujet. On essaye de trouver les meilleurs compromis, mais je pense que le fait de l'intégrer, c'est déjà une plus-value assurée, parce que ça permet de remettre les choses en ordre.
Et puis c'est pas forcément... Enfin, je sais pas si le terme compromis est adapté, parce que c'est plus une complémentarité de solutions à la fois sur une partie passive et sur des systèmes actifs, si je comprends bien.
Le problème, c'est il y a un problème. Enfin, on parlait tout à l'heure d'inconfort, et puis après il y a un vrai problème d'économie. Enfin,
économique au sens large.
C'est vrai que quand vous habitez, alors la maison individuelle a un effet plus simple. Enfin, je suis un peu d'accord. Je suis complètement d'accord d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quand j'habite boulevard Haussmann, le sujet il est complexe, parce que qu'est-ce que je peux faire? Si j'ouvre les fenêtres, je dors pas. Il y a un peu de pollution, je l'en prends plein la tête. Enfin, il y a plein de sujets. Donc là, il faut que je trouve d'autres solutions. Quand je suis en pleine campagne, le sujet ne se pose pas. J'ouvre les fenêtres, là, je peux faire du traversant, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux même, si j'ai des fenêtres de toit, je peux maintenant les rendre un petit peu mobiles pour jouer avec un effet ventilation. Donc ça, c'est vraiment différent. Après, le fait de dire... est-ce que je vais investir ? Parce que c'est quand même un peu là le sujet, quoi. Pour l'inconfort d'été, ça va être une grosse, grosse question, parce que faut qu'on arrive à innover sur des sujets simples, économiques, et qui soient faits pour tous. Si seulement 2% de la population est capable de faire un investissement pour ce genre d'inconfort, on aura loupé l'objectif, à mon avis.
Oui, Chantal.
Oui, on a aussi des solutions qui peuvent se développer avec ces solutions de confort d'été, qui sont par exemple utiliser le PV que j'installe sur le toit de l'immeuble ou de la maison individuelle.
Le PV photovoltaïque.
PV photovoltaïque, merci. Qui permet finalement de bénéficier de cet apport gratuit du soleil qui se transforme en électricité pour ensuite alimenter ou ma ventilation ou ma climatisation le temps que j'en ai besoin. Et donc ça aussi, ce sont des solutions nouvelles. Conception globale qu'on pourrait imaginer, qu'on imagine d'ores et déjà, en tout cas côté EDF, dans des maisons, dans des logements à rénover ou dans des logements à construire. Et ça, je pense que c'est aussi clé, parce que c'est pas plus de consommation, vu de la facture du client, c'est plus de confort finalement à facture équivalente, facture énergétique globale équivalente. Et ça, c'est clé.
Et donc dans une approche également bas carbone, parce que ça, c'est important aussi aujourd'hui.
Bas carbone et énergie renouvelable, puisqu'on utilise l'électricité du panneau photovoltaïque, PV.
On va arriver au terme de cette émission. Merci, merci chers invités de ces échanges. Et puis, je crois que finalement, on voit que c'est un sujet important et qui nous préoccupe tous, mais les solutions existent. Parfois, on n'a pas toujours la réponse, les solutions existent, et vous nous l'avez démontré.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Alors on voit bien que cet inconfort d'été, comme vous l'avez dit, n'est pas facile à régler, mais on sait qu'il y a vraiment un sujet, puisque globalement, il y a eu quand même des problèmes avec les canicules en France en 2003, puisqu'il y a eu quand même 15 000 morts. On voit bien que l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur est là. La population à risque, donc avec le vieillissement, est beaucoup plus sensible à la chaleur et à la température. Donc on a quand même un vrai sujet. Et ce que je note au travers de ce que vous avez dit, c'est que finalement, il n'y a pas une solution, il y a un ensemble de solutions qui peuvent être sur le matériau, qui peuvent être sur le bâti, la ventilation, l'orientation, la lumière, etc. Et donc ça mérite une certaine réflexion pour construire un projet autour de, pour améliorer mon confort de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pas simple, il n'y a pas une solution immédiate et complètement reproductible. Il y a plusieurs ensembles de solutions à réfléchir. Et on voit bien que ces périodes de chaleur se reproduisent, vont être de plus en plus longues. Et donc, il faut absolument qu'on innove sur ces sujets-là, parce qu'on en a besoin pour la population d'aujourd'hui et celle de demain.
Merci à tous.
Le confort dans l'habitat. Retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.